Alors, notre discussion et nos préoccupations, à la croisée de la psychologie pour moi et de la philosophie pour vous, tournent autour donc de la relation homme-femme et surtout autour du constat d'un malaise actuel dans la relation homme-femme et d'une vraie préoccupation par rapport à un conflit, à une agressivité latente qui ressort régulièrement dans les médias, dans l'art, dans la littérature, en politique. Et cette préoccupation est commune évidemment aux philosophes et aux psychologues. Je voudrais peut-être commencer par quelques constats dont on a parlé ensemble qui sont extrêmement récents et qui sont très parlants. Pour qualifier un petit peu cette atmosphère relativement préoccupante. Un premier constat qui est chiffré, c'est celui tout simplement des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est un problème extrêmement étendu qui est très loin d'être solutionné, voire d'être apaisé. Les chiffres sont tout à fait effrayants puisque en 2018, les violences faites aux femmes en moyenne pour une année, c'est-à-dire violences physiques et ou sexuelles pour une femme au sein de son couple, c'est une moyenne de 213 000 femmes en France qui subissent ce genre de violences. Ce sont les chiffres de l'INSEE en 2018 sur une enquête qui s'est déroulée sur à peu près 7 ans. Donc ce premier constat-là d'une vraie souffrance portée par les femmes et d'une violence qui ne s'atténue pas ou peu, malgré de nombreuses mesures politiques, etc. Et face à cette violence que les femmes subissent et qu'elles dénoncent de plus en plus avec des actions choc, des manifestations, etc., peut-être une autre forme de violence que les hommes subissent davantage et qu'on voit en fait qui est assez frappante. Je pense notamment à ce clip de la chanteuse Angèle, clip très sympathique et plein d'humour, de la chanson « Balance ton quoi », donc qui est sorti en 2019. Et en avril 2019, Angèle sort un clip dans lequel sont représentés des hommes sexistes ou à penchant sexiste et qui sont en fait rééduqués dans une académie de l'antisexisme. Ce clip qui est plein d'humour et voilà, une chanson qui est pleine de sens et assez sympathique, révèle tout de même un peu cette atmosphère de rééducation d'un homme qui serait finalement un peu porteur d'une tare d'égoïsme, de sexisme potentiel, toujours un peu à l'œuvre en lui. Et il y a, je trouve, dans cette atmosphère un peu de voilà, comment rééduquer les hommes aujourd'hui, une certaine forme aussi de violence qui vient alimenter une agressivité latente. Donc ça, c'est mon constat de psychologue en cabinet, dans ma pratique, pour les couples que je rencontre et que j'ai rencontrés. Et c'est aussi, en fait, ce que constate la philosophie et ce sur quoi la philosophie a quelque chose à dire.
Alors, la philosophie a quelque chose à dire, à condition que la philosophie soit aussi ancré dans l'expérience hein, de la vie humaine, et puis en dialogue avec les sciences humaines, notamment la psychologie. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des questions qui traversent toutes les disciplines, la philosophie, la psychologie, la sociologie, le droit, les sciences politiques. Et nous sommes dans un contexte aussi de nos sociétés occidentales, très sensibles à ces questions de violence, entre les sexes, entre les hommes en général, tout ce qui est sexisme, discrimination. Donc c'est très bien, il y a une prise de conscience d'une nécessaire prise en compte de l'égalité et de la non-violence. Et en même temps, il faut aussi se dire, nous sommes bien des hommes et des femmes avec ce que nous sommes fondamentalement et comment être éduqué. Alors je ne sais pas s'il faut rééduquer les hommes violents ou bien s'il faut éduquer les petits garçons et les petites filles à vivre ensemble dès l'enfance, ou si toutes ces questions de violence ne sont pas aussi des questions d'éducation fondamentale. Bon, je prends un exemple qu'on connaît bien. Il y a 30 ans, 40 ans, on voulait que la pornographie soit vraiment libre, hein, parce que l'émancipation des individus, c'est l'émancipation, y compris sur le plan sexuel. Et puis 30-40 ans après, on s'aperçoit que la pornographie est source de violence, pour les femmes, bien sûr, mais pour les hommes. Hein, n'oublions pas que la violence, elle est aussi un peu symétrique, hein, et ça, il faut un peu le travailler. Et on a dit, ben non, la sexualité physique, il faut la libérer, il faut la laisser s'épanouir, et puis on s'aperçoit qu'elle est elle-même source de violence. Et donc peut-être qu'on est en train d'avoir les effets de cause qu'on a peut-être mis en œuvre nous-mêmes dans un idéal légitime de liberté, d'égalité, de non-discrimination. Autrement dit, peut-être qu'il faut qu'on reprenne en compte ce que nous sommes profondément, en tant qu'être humain, qu'être vivant, qu'être sexué. On parlera sans doute, bien sûr, des questions du genre, hein, qui font partie de cette perspective, pour bien comprendre d'où vient la violence, pour bien comprendre aussi en quoi cette violence, peut-être qu'on l'a provoquée nous-mêmes, et peut-être qu'on l'entretient sans s'en rendre compte. Et bien sûr, il est évident que les violences masculines physiques sont incontestables. D'ailleurs, on sait dans les statistiques que les hommes masculins meurent beaucoup plus en proportion de morts violentes que les femmes. On sait que si le cerveau est plastique, il est incontestablement plastique parce que nous sommes des êtres libres et notre corps se modèle aussi par rapport à nos actes et notre liberté, il n'empêche que nous avons, les hommes et les femmes, des différences, des tendances qu'il faut comprendre. Peu à peu, c'est récent, c'est depuis une dizaine d'années, on ne parle plus d'identité sexuelle, de différence sexuelle, on parle de genre. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à vouloir considérer, ce qui n'est pas faux, que l'identité sexuelle devient une identité de genre parce qu'elle est culturelle. Donc c'est la société qui modèle notre identité. En fait, il ne faut pas négliger que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres incarnés. Bien que nous soyons libres et culturels, nous avons aussi un corps, une biologie, et qu'en niant la biologie des sexes, on nie une partie de ce que nous sommes, une partie des dynamismes de la vie, et donc une partie des dynamismes qu'on appelle sexuels, et qui sont un donné que si on les nie, en fait, on risque d'engendrer une sorte de violence sur l'être humain, en niant une partie de ce qu'il est, son corps, ses sensations, ses désirs, qui reviennent, en fait, on sort la biologie par la porte, elle revient par la fenêtre, et les violences, c'est aussi des méconnaissances mutuelles de la manière dont les hommes et les femmes fonctionnent. Et si on veut analyser le constat avec une certaine ampleur, il faut tenir compte des aspects culturels, des aspects psychologiques, des aspects biologiques, pour unifier notre vision et surtout avoir une compréhension des uns et des autres qui soit aussi complète que possible.
Absolument. Le fait que vous parliez du corps m'intéresse beaucoup en tant que psychologue. Vous avez également évoqué la pornographie, donc je vais rebondir un petit peu dessus. Effectivement, il y a dans la pornographie qui est quand même extrêmement présente aujourd'hui, j'ai presque envie de dire omniprésente dans le champ de la sexualité, notamment de la sexualité adolescente. C'est extrêmement frappant. Alors ça touche plus les hommes et les jeunes garçons, parce que ça commence en fait très tôt, que les femmes, mais c'est le nombre de femmes qui sont touchées par le phénomène de la pornographie est en augmentation. Les avis sont extrêmement partagés sur la pornographie. Ce qui est certain, et en tant que psychologue, je ne peux que rejoindre cet avis-là qui est beaucoup porté par Michaela Marzano, entre autres, mais par beaucoup d'autres aussi. La pornographie crée une atmosphère de domination dans la sexualité parce qu'elle véhicule en fait une forme d'éthos de la souffrance de l'autre et voilà, la domination de l'un des partenaires et la jouissance dans la souffrance de l'autre. Cette atmosphère-là, à laquelle sont quand même biberonnés la plupart des adolescents d'aujourd'hui, ne peut pas être neutre, notamment au sein des rapports hommes-femmes. Et il y a vraiment cette question de la domination de l'autre, cette dialectique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de ça, d'un rapport dominant-dominé permanent, qui s'inverse un peu dans les rapports hommes-femmes et qu'on voit au fur et à mesure de l'histoire du féminisme. Ce qui est assez intéressant pour éclairer ce propos, on en parlait tous les deux récemment, c'est cette idée de symétrie. On constate en fait souvent dans les rapports homme-femme conflictuels, quand le rapport homme-femme devient problématique, il y a souvent en fait une question de communication symétrique. C'est Grégory Bateson qui a introduit ces termes-là, Bateson qui est le père de la systémie. Et c'est un concept assez intéressant qui se résume facilement. Une personne agit d'une certaine façon et la personne en face va agir en miroir avec une surenchère. Et il va y avoir donc ce qu'on appelle une escalade symétrique de riposte avec des comportements en miroir. Et du coup, quand c'est dysfonctionnel, il peut y avoir une escalade de violence, de frustration, de colère l'un envers l'autre. Et du coup, forcément, s'instaure comme ça un cercle vicieux, une dialectique du dominant-dominé qui ne saurait être une solution. Le système patriarcal que l'on dénonce aujourd'hui ne pourrait pas être solutionné par un système matriarcal ou par un machisme inversé, en fait. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les couples qui sont en conflit. La femme exige quelque chose, l'homme exige quelque chose en retour. Et du coup, on est dans une escalade symétrique et une perte de la communication, en fait, tout simplement.
Et le risque, hein, on voit, c'est que les hommes n'ont plus rien à dire. D'abord, un homme, vous savez qu'on sait en psychologie que devant une difficulté, les hommes ont tendance à ne pas en parler et les femmes ont besoin d'en parler. Donc déjà dans le couple, il faut se découvrir les uns les autres pour comprendre comment on fonctionne. Et ce n'est pas uniquement culturel, hein, il y a une sorte de constante. Le risque de ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, les hommes ne disent plus rien. C'est-à-dire ils ne sont plus là, en fait, et on les cherche et on ne les trouve plus. Et donc, il faut restaurer le dialogue. Alors, soit le dialogue général dans la société entre les hommes et les femmes. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui n'aiment pas vivre avec des hommes et des hommes qui n'aiment pas vivre avec des femmes. Ça, c'est évident et puis c'est depuis toujours. Mais globalement, les hommes et les femmes sont là pour vivre ensemble, pour se connaître, s'aimer éventuellement et vivre ensemble. Et donc, le risque de ce que vous décrivez très bien, c'est cette surenchère de violence, on va chercher chez l'autre ce qu'on attend soit de l'autre et pas ce que l'autre peut donner, c'est une méconnaissance de plus en plus importante. Et le retour aux instincts. C'est-à-dire que les violences masculines sont des retours aux instincts de domination primaire, hein, ce qu'on appelle, ce n'est pas tout à fait orthodoxe en neurosciences, mais tout ce qui est cerveau reptilien, c'est-à-dire les processus spontanés. Il y a des pédopsychiatres qui ont fait des études sur la violence gratuite chez les jeunes. Aujourd'hui, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit, comme on voit dans la rue, c'est toujours des phénomènes dans lesquels on court-circuite en fait toutes les capacités de raisonnement, de délibération, de recul sur l'événement. Et donc effectivement, l'instinct sexuel primaire domine. Donc on risque d'engendrer pire que ce qu'on a voulu, au contraire, enlever. Parce qu'on oublie une chose, c'est que l'homme et la femme se découvrent mutuellement dans un dialogue profond sur les attentes mutuelles pour s'adapter aux attentes mutuelles. Ces attentes peuvent être légitimes, ces attentes peuvent être au contraire excessives, donc il faut se réguler, il faut réguler son désir, il faut réguler tous ces désirs, qu'ils soient sexuels ou psychologiques, sentimentaux ou autres, ça c'est incontestable, mais à condition de les connaître ou de vouloir les connaître et à condition de pouvoir les exprimer. Et on assiste effectivement dans ces contes inversés. C'est vrai que les hommes peuvent avoir des rôles sociaux aujourd'hui qu'il y a 30, 40 ans ou un siècle ou deux siècles, les femmes aussi. Mais à un moment donné, il faut se dire, il y a un socle, et attention de ne pas éradiquer ce socle avec des idéaux, comme si effectivement on devait aller vers une société où il n'y a plus de différences. Et en même temps, on sait bien qu'il y a des différences, dont les différences, c'est celles que je veux, ce n'est pas celles que l'autre peut me donner. Un espèce de narcissisme global de la société qui fait qu'on oublie en fait des réalités fondamentales qu'on doit connaître. Donc si on considère que tout est violence, tout est rapport de domination, alors tout sera violence de plus en plus et rapport de domination. Si on considère qu'il y a chez l'être humain, l'homme et la femme, et l'homme en l'occurrence par rapport à la violence physique, il y a la capacité de s'éduquer, de comprendre l'autre, à ce moment-là on va prendre des moyens pour que ça se réalise, et on va peu à peu réguler, échapper à ces rapports dialectiques de contradiction des sexes, de guerre des sexes, qui sont inquiétants parce que quand quelqu'un, que ce soit un jeune ou un moins jeune, se sent pas compris, ça fait une frustration et ça ressent en violence aussi. Que ce soit les femmes ou les hommes, il y a une sorte de condition humaine qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble malgré tout. Et il faut que la société nous donne les conditions de vivre ensemble, dès l'école d'ailleurs. Hein. Il y a une tendance pédagogique qui est de supprimer à l'école tout ce qui est différence sexuelle ou différence genrée, comme on dit. Oui, mais non, pas complètement non plus, hein, parce que on a bien des différences fondamentales. Donc voilà, revenons un peu aux fondamentaux et revenons au bon sens et essayons de restaurer le dialogue et la relation pourra se faire à ce moment-là de manière plus apaisée.
Absolument. Vous parlez de restaurer la relation. Je crois que c'est effectivement là la clé. Ça paraît simple dit comme tel. En fait, ça n'est pas forcément une évidence. Je me souviens avoir lu un rapport de l'Assemblée générale de l'ONU pour l'élimination des violences faites aux femmes, un rapport très intéressant. Mais il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que vraiment la solution qui est invoquée pour l'élimination des violences faites aux femmes, c'est de s'attaquer au système, c'est-à-dire de s'attaquer au patriarcat qui est en soi générateur de violences envers les femmes. Et ce rapport sous-entend que ça n'est pas vraiment une affaire de relation. Or, c'est très bien de s'attaquer au système, c'est très bien de s'attaquer au sexisme, aux inégalités, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la relation, dans les relations particulières. Et il y a en fait tout rapport de domination entraîne chez celui qui est soumis, chez la victime, une colère, une frustration, un désir de revanche. Et du coup, on tombe là dans un cercle vicieux et dans un désir de revanche perpétuel qui peut être effectivement très dangereux si on n'apprend pas, comme vous le disiez, la rééducation dans la relation. Apprendre ce qu'est l'autre, comment vivre avec l'autre, quelles sont ses différences, ses spécificités, ses richesses, et apprendre la gratitude. J'y tiens, on en a parlé récemment, mais voilà cette idée de la gratitude, de ce que peut représenter la différence de l'autre. Plutôt que l'attente captatrice de l'autre, plutôt une sorte de gratitude par avance de ce que peut représenter l'autre en termes de différence. J'écoutais récemment les podcasts du festival des sexes et des femmes qui s'est tenu en 2019, dont le titre est très parlant et intéressant, c'est « Sortir de l'hétérosexualité ». Vraiment le thème, c'est l'hétérosexualité est un système dominant en soi pour la femme et il faut en sortir parce que les hommes dans l'hétérosexualité soumettent bon nombre de femmes. Et il y a tout un tas de podcasts intéressants à écouter parce que ce sont des témoignages de femmes qui ont décidé de sortir même de l'hétérosexualité parce qu'elles ont souffert à cause d'hommes. Et ce dont elles témoignent est absolument effrayant. La vision des hommes que ces femmes ont est absolument effrayante, témoigne d'une souffrance inouïe, témoigne également d'une grande colère, voire d'une haine. Il y a vraiment quelque chose d'une agressivité latente qui est très forte. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment en séparant comme ça l'homme et la femme et en disant « moi je n'ai plus jamais affaire aux hommes » ou « pour les hommes je n'ai plus jamais affaire aux femmes » est-ce que c'est vraiment par ce séparatisme-là que l'on va résoudre la question et apaiser ce duel entre hommes et femmes? Il y a effectivement quelque chose qui vient scléroser une séparation qui est déjà assez inquiétante. Donc effectivement la solution est davantage dans l'éducation, dans la relation et dans la communication.
Et dans la découverte de l'autre comme étant un complément, éventuellement ce que je ne suis pas, entre mes femmes, ou d'ailleurs entre les hommes et entre les femmes aussi, de manière globale dans la société. Alors toute société, toute période de l'histoire a dû apprivoiser les relations hommes-femmes. Et l'apprivoisement, il ne vient pas de l'extérieur, ce que vous disiez sur le côté systémique des sociétés, ou par la répression, par le droit, par les interdictions, par les violences symboliques de répression des désirs, mais pas au contraire la prise de conscience de ce que nous sommes. Il y a trois démarches très importantes chez l'être humain. C'est d'abord de se sentir bien en tant qu'homme ou en tant que femme. Je suis un homme, je suis une femme, je me sens bien dans mon corps d'homme et de femme. La société peut, dès la petite enfance, dès la jeune enfance, dès la préadolescence, déjà mettre en doute pour se sentir bien. Là, c'est déjà un point de départ qui est problématique. Deuxième aspect, il faut qu'on se comprenne bien les uns les autres, et ça demande du temps. Quand un homme et une femme veulent entrer en relation, il n'y a pas un homme identique à un autre homme et une femme identique à une autre femme. Donc ça devient compliqué, effectivement. Chaque femme a sa féminité, chaque homme a sa masculinité. Donc il y a les discours communs sur l'homme et la femme, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de faire dans le, le colloque là qui est organisé, c'est de comprendre les grands enjeux. Et puis il y a ce mystère de la relation interpersonnelle. Mais je pense que les femmes, là, vous avez un rôle à jouer, puisque vous êtes très, très concernées par tout ce qui se passe. Et il faut rappeler les hommes, hein, faut les faire revenir pour qu'ils ont à dire des choses aussi. Ils ont à dire des choses pour les aider à mieux se comprendre eux-mêmes aussi, dans la positivité de leur masculinité. En fait, la question, c'est, à mon sens, de comprendre que nous sommes, les uns et les autres, des révélateurs de l'autre. C'est-à-dire que je pense c'est aux femmes de dire aussi ce qu'elles peuvent trouver comme qualité à l'homme. Et à ce moment-là, ça éveille en l'homme une manière d'être qui peut le transformer, et réciproquement pour la femme. On ne peut pas développer le sujet, mais par exemple, quand un couple, un homme et une femme accueillent un enfant, acceptent un enfant, ça modifie aussi la manière dont ils se perçoivent l'un par rapport à l'autre. Nous sommes tous des révélateurs pour l'autre, de ce que nous sommes vis-à-vis de l'autre, hein, une sorte de réciprocité. Hein. Donc peut-être que, effectivement, si tant est que l'homme ait des qualités, l'homme masculin, peut-être ça serait bien aujourd'hui d'esquisser une description de quelques qualités, parce qu'on en a besoin.
Tout à fait. En fait, ce serait peut-être un peu schématique de dresser les qualités de l'homme. Ce qui est certain, c'est que l'homme a un besoin fondamental qu'on remarque dans les vies de couple, dans les témoignages de couple. C'est que l'homme et la femme, mais très particulièrement l'homme souvent, alors on parle évidemment de généralité, hein, c'est des tendances, ce ne sont pas des vérités absolues, mais l'homme a un besoin de valorisation, d'être valorisé par un regard d'autrui sur ce qu'il fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand la femme a un regard de reproche permanent ou d'attente frustrée permanente, ça ne va pas du tout améliorer la situation. C'est-à-dire que c'était Alain qui disait « Les hommes se hâtent de ressembler au portrait que vous vous faites d'eux ». Et cette phrase est très vraie, c'est-à-dire que le regard porté par l'homme sur la femme et par la femme sur l'homme vient modifier nos comportements. Un regard dégradant d'un homme sur une femme va finalement presque pousser la femme à avoir des comportements dégradants. Je vois beaucoup ça chez des adolescentes qui viennent me parler de comportements qu'elles ont et qui les font souffrir et qu'elles accomplissent quasiment parce qu'elles ont en fait cette réputation-là. Et c'est très frappant de voir à quel point le regard peut enfermer et ce qui me marque énormément dans une certaine branche du féminisme radical, très séparatiste en fait, homme-femme, il y a vraiment cette idée de l'homme est intrinsèquement un égoïste et un violeur en puissance. J'ai vraiment lu beaucoup d'articles à ce sujet-là et de témoignages, vraiment avec cette idée qu'en fait il y a une tare intrinsèque à l'homme, avec une sorte de violeur en lui qui peut se réveiller à tout moment, et que finalement l'homme naturellement a un instinct de domination économique, sexuelle, physique. Et donc ce regard un peu parfois qui frise le mépris sur l'homme est finalement un portrait auquel l'homme peut se conformer. Et c'est ça qui peut être effrayant aujourd'hui, et c'est ça auquel il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité du combat contre les violences faites aux femmes, et du coup forcément c'est l'homme qui est accusé, parce que la grande majorité des cas c'est l'homme sur la femme. Mais du coup dans quelle mesure est-ce qu'on ne porte pas un regard sur tous les hommes en général, à partir de ces cas particuliers de ces hommes violeurs, violents, etc. Et du coup, il y a peut-être aujourd'hui un portrait de l'homme à rééduquer, un portrait de l'homme égoïste, voire violent en puissance, qui émerge et qui vient effectivement potentiellement enfermer l'homme de la même manière que l'hypersexualisation enferme la femme. Et que ce sont effectivement avant tout des regards qui sont à rééduquer. Et je crois fondamentalement que si la relation doit s'apaiser, c'est d'abord par les regards que l'on porte les uns envers les autres et des regards qui ne soient pas chargés, comme vous disiez, de stéréotypes. Et de stéréotypes négatifs, entre autres. Parce qu'on se conforme naturellement, c'est une tendance de l'être humain, au regard que l'on porte sur nous. Ça se voit énormément dans l'éducation, un parent qui va dire à son enfant, de toute façon, tu n'as jamais réussi en cours, dès que je te fais travailler, tu es complètement paresseux, tu regardes ailleurs, en fait, l'enfant va se conformer à ce discours et ça va ressortir à l'âge adulte. Donc, dans les relations hommes-femmes, je crois qu'un point de vigilance pour que la relation homme-femme redevienne un duo, et c'est peut-être là-dessus qu'on va finir, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Donc voilà, je crois que c'est avant tout les regards qui sont à rééduquer, avant de rééduquer le système. Il y a vraiment des regards à travailler au sein des couples pour réapprendre à accepter l'autre tel qu'il est et lui laisser la liberté d'être autrement qu'un stéréotype ou une vision que l'on plaque sur lui.
Oui, tout un programme en fait, hein, parce que notre échange c'est un programme.